Souhaitez-vous que votre OS ait une voix d'homme ou de femme?
De femme, je crois.
Hello, I'm here.
Oh, hi.
Hi.
Do you have a name?
Yes. Samantha.
Nous développons une approche scientifique, somme toute classique, et qui essaie de rendre objectif le subjectif, en l'écrivant, en l'exprimant, sous forme d'équations. Parce qu'en formulant des équations, on n'a pas nécessairement besoin de commencer par une explication neuronale, de comprendre la structure du cerveau. Ce qu'il faut, c'est comprendre l'expérience subjective.
Essaye de dire E.T.
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 téléphone maison.
Mon Dieu, ça y est, il parle.
Maison.
Il n'y a pas que une typologie de personnes qui sont dans l'école. Il y a des tas de types qui sont plus ou moins intelligents. Ou il y en a souvent qui peuvent être très intelligents, mais qui ont la mémoire très courte. Et donc, on doit refaire plusieurs fois. Il y en a qui sont pas intelligents, qui ont la mémoire très longue. Il y en a qui sont très intelligents et qui ont la mémoire très longue.
Finalement, on part d'une question assez simple. Qu'est-ce que c'est que cet espace autour de nous qu'on construit dans notre tête et dans lequel on situe tout?
Je te prie d'ouvrir la porte extérieure A.
Je regrette, Dave. Cela m'est malheureusement impossible.
Ne discute pas, Carl. C'est moi qui commande. Ouvre la porte A.
Dave. Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire. Adieu.
Et moi, je ne vous dis pas adieu, je vous dis bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à vous, auditeurs, auditrices des Rencontres de Pétrarque. Et à vous, cher public de la cour sous l'âge du rectorat de Montpellier, qui vous êtes une fois de plus déplacés en nombre pour venir écouter ces 5 jours de débat en direct sous les bons auspices du majestueux tilleul qui nous fait, et c'est bienvenu, un peu d'ombre. Pour cette 37e édition des Rencontres en partenariat cette année avec Midi Libre, nous avons choisi de nous intéresser à ce qu'on a longtemps cru être le propre de l'homme, idée qui est, heureusement ou malheureusement, ça dépend des points de vue, largement battue en brèche aujourd'hui sous l'effet des progrès de l'éthologie, des sciences numériques et même de l'astrophysique, d'où le titre que nous avons donné à la semaine, « Les révolutions de l'intelligence ». L'astrophysique, on en parlera vendredi, autour de l'existence ou non d'une intelligence extraterrestre, en compagnie de l'astrobiologiste Nathalie Cabrol, de l'astrophysicien Jean-Pierre Bibring et de l'écrivain de science-fiction Laurent Genefort. Jeudi, nous nous demanderons si nous sommes plus intelligents à plusieurs. Le politiste Loïc Blondiaux, l'essayiste Gaspard Koenig et l'ancien joueur de rugby et entraîneur Daniel Herrero en débattront. Mercredi, autour de la philosophe Vinciane Després, de l'écrivain Cédric Sapin-Defour et de la botaniste Véronique Mur, nous verrons ce que nous apprennent les autres êtres vivants. Demain, on ouvrira le débat sur l'intelligence artificielle entre deux pionniers et deux stars du domaine, tous deux prix Turing, Yann LeCun et Joshua Bengio, avant d'élargir la discussion avec la philosophe Anna Lombert et le chercheur Patrick Pérez. Et aujourd'hui, tout naturellement, la question qui va nous occuper, c'est « Mais qu'est-ce que c'est l'intelligence ?» Et pour nous éclairer, j'ai le grand plaisir d'être entouré par deux cerveaux, deux grands esprits, pour ne pas dire deux intelligences complémentaires. Lionel Nakache, tout d'abord. Bonsoir Lionel Nakache.
Bonsoir Caroline Brouet.
Merci d'avoir fait le voyage jusqu'ici. Vous êtes neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Vous êtes chercheur en neurosciences à l'Institut du cerveau et professeur à Sorbonne Université, auteur de nombreux livres sur la conscience, la subjectivité, le fonctionnement neuronal. Et à vos côtés se trouve Daniel Andler. Bonjour.
Bonsoir.
Merci aussi de vous être déplacé jusqu'à nous.
C'est un plaisir.
Vous êtes mathématicien d'origine, devenu philosophe des sciences, professeur émérite de Sorbonne Université également, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Et vous avez fait paraître en 2023 un livre que j'ai là devant moi sur la table, intitulé « Intelligence artificielle, intelligence humaine, la double énigme », paru donc aux éditions Gallimard. J'espère juste en un mot démentir cette phrase de vous, Lionel Nakache, que vous avez dit dans un récent entretien au journal Le Monde. Vous avez dit « Un des défis, c'est de faire parler deux disciplines entre elles. C'est vital, mais compliqué et souvent raté. » Donc j'espère que nous n'allons pas rater cette discussion, puisque deux disciplines vont parler ce soir. D'abord, on va tenter une définition de cette intelligence humaine. Vous savez que les Grecs louaient la métisse, cette intelligence pratique qui combinait le flair, la débrouillardise, la sagacité, que la philosophie classique l'a ramenée à la raison, que la psychologie moderne a fait de la logique une clé de sa mesure. Si je vous demande, Lionel Nakache, si je pose la question au neurologue que vous êtes, si je vous demande ce qu'est l'intelligence pour les neurosciences, que me répondez-vous ?
Alors, vaste question, et c'est vrai qu'on a un peu l'impression d'être presque un imposteur, d'ouvrir la semaine sur l'intelligence, en commençant par essayer de la définir. Moi, en fait, ma position, c'est que face à ces grandes situations, ces grandes questions très complexes, comme celle de l'intelligence, et quand vous ouvrez un dictionnaire, quel qu'il soit, en général, vous avez ce sentiment un peu frustrant de ne pas avoir l'impression d'avoir appris grand-chose en lisant la définition. Je vous laisse ouvrir vos propres dictionnaires. Et dans ces cas-là, moi, le principe que j'adopte, c'est plutôt d'essayer d'identifier des tensions, donc des tensions entre des principes contradictoires, mais qui semblent tous les deux nécessaires pour arriver à définir l'objet dont on parle. Je l'illustre très, très, très rapidement. Une des grandes questions, une des premières questions qu'on se pose et qu'on nous pose sur l'intelligence, c'est est-ce que l'intelligence, on doit la penser au singulier, l'intelligence, ou est-ce qu'on doit la penser au pluriel, les intelligences ? On voit tout de suite que dans cette tension-là, l'aspect qui est sans doute le plus intéressant, c'est de ne pas se débarrasser de la question à la sauvette. De dire oui, c'est les intelligences qu'on peut déployer, l'intelligence émotionnelle, les intelligences émotionnelles, et puis l'intelligence de chacun, etc. Ce que je crois, je pourrais le décliner pour une dizaine de tensions, c'est qu'on a besoin de préserver cette tension qui nous parle. Et on l'illustrera peut-être à travers des exemples. C'est qu'il y a des aspects de notre intelligence qui semblent renvoyer vers la multiplicité des intelligences. Et il y a d'autres propriétés de l'intelligence, de ce qu'on veut en tout cas, de l'intuition qu'on a de pouvoir définir cet objet mental, qui, elle, relève davantage de la singularité, du fait que c'est une intelligence un peu générale. Et donc de cette tension à chaque fois, et c'est ça, je pense, il ne s'agit pas que vous sortiez parce que personne n'a cette définition, mais plutôt de re-questionner, d'aviver cette définition, pour moi, c'est à travers une dizaine de tensions. Alors je ne dis pas qu'on aura le temps de les visiter toutes, mais c'est ça ma grille de lecture.
Daniel Handler, est-ce que le philosophe des sciences que vous êtes pense aussi, en termes de tension, cette notion à la fois insaisissable et polymorphe ?
Alors, le philosophe des sciences sort deux outils. Le premier outil, c'est la distinction entre une notion commune qui appartient à l'entendement commun, qui appartient à la conversation, et son ou ses analogues éventuels scientifiques. Clairement, l'intelligence fait partie, en tout cas dans nos cultures, de la conversation quotidienne. À mon avis, il est rare qu'on passe une journée entière sans se dire « il est intelligent » ou « j'ai été bête » ou « tel collaborateur est formidablement intelligent et tel autre l'est beaucoup moins ». Donc, il y a un recours constant à cette notion d'intelligence. Mais elle est évidemment polymorphe, comme vient de le dire très bien Caroline Brouet, et elle est comparative, comme vient de le dire Lionel. Donc ça, c'est la première chose. Distinguer clairement le fait qu'il y a une compréhension intuitive que nous avons, mais qui est insaisissable en même temps. L'intelligence, parmi tous les concepts dont on se sert très couramment, sans être absolument sûr de savoir ce dont on parle, c'est probablement l'un des plus insaisissables. C'est vraiment un concept anguille. Comment fait-on quand on a un concept anguille ? Alors, on cherche, soit, comme vient de le suggérer Lionel, de l'inscrire dans un espèce de système de repères avec des contrastes, ou bien on cherche à l'opérationnaliser, et ça c'est le deuxième outil standard du philosophe des sciences, c'est il regarde comment une science particulière va opérationnaliser un concept courant. Alors ça se passe pour la force, par exemple. La force, c'est un concept qui existe depuis toujours dans nos cultures, dans le langage commun, qui a plein d'acceptions, plein d'usages, et que le physicien, lui, va opérationnaliser. Alors, pour faire bref, comment est-ce qu'on va opérationnaliser la notion d'intelligence ? On va passer par le concept de comportement. On va dire, au fond, l'intelligence, vue de l'intérieur, je ne sais pas trop ce que c'est, mais en revanche, je constate que l'intelligence, je la mesure au comportement. Est-ce que le comportement a été adapté, ajusté à la situation ? Et c'est donc de cette manière-là, en opérationnalisant le concept d'intelligence, qu'on peut lancer un programme de recherche scientifique, par exemple celui de la psychologie, par exemple celui des sciences cognitives, des neurosciences.
Est-ce que les deux approches, c'est-à-dire l'approche de la philosophie des sciences, qui est large, et l'approche des neurosciences, qui est la vôtre, aussi bien en termes de médecine qu'en termes de recherche, Lionel Nakache, sont antinomiques ou complémentaires de ce point de vue-là ?
Ah non, je pense qu'elles sont absolument complémentaires. Et pour rebondir sur la mention que vous faisiez, cette communication, c'est parce que c'est quelque chose que je pense profondément et qui peut nous intéresser ce soir, c'est pour ça que j'y reviens. C'est qu'on a, nous avons besoin, je pense, évidemment, de croiser les disciplines. Mais donc l'interdisciplinarité, comme on dit, est quelque chose, pas seulement d'essentiel, mais je pense d'obligatoire. On n'a pas vraiment le choix, mais en sachant que c'est très compliqué à mener. Voilà. Donc cette lucidité me semble importante. Sinon, pourquoi c'est très difficile ? Parce que d'abord, ça demande de maîtriser plusieurs cultures. Si vous étudiez la logique, vous étudiez l'algorithmique, vous étudiez les neurosciences, vous étudiez la psychologie, la neurologie, déjà, ça va faire rentrer beaucoup de choses dans une même tête. Donc il y a une sorte d'effort. Deuxièmement, il y a souvent des malentendus de langage. On ne va pas parler du tout des mêmes questions. Et souvent, à la fin, quand ça marche plus ou moins, vous allez avoir ce que j'appelle des effets peau de chagrin. C'est qu'à la fin, vous avez des gens qui s'esclaffent de pouvoir s'entendre sur des truismes, en fait. Et pourtant, on n'a pas le choix. Voilà, on n'a pas le choix parce qu'on a des zones aveugles dans chaque discipline. Donc, je pense qu'effectivement, et pour rebondir sur ce que disait Daniel, un des problèmes aussi dans la question de l'intelligence, comme dans beaucoup de questions, c'est qu'il ne faut pas qu'on puisse confondre les outils pour la mesurer avec en fait sa fonction ou en tout cas ce que l'on sa définition. Je donne un exemple très très clair. Effectivement, on va souvent pouvoir inférer des choses sur l'intelligence d'un individu à travers ses comportements. Donc on va utiliser le canal des mesures comportementales au sens très large du terme, un comportement cognitif aussi, des réponses à un test, etc., qui vont nous donner une fenêtre vers l'intelligence. Mais là où il y a une première difficulté, c'est qu'il ne faut pas confondre qu'on a utilisé l'approche de la, disons, performative, quel va être le comportement qui va être associé, pour mesurer, mais non pas pour la définir. Autrement dit, je veux dire qu'il y a beaucoup d'aspects dans l'intelligence qui ne sont pas nécessairement performatifs. On peut avoir une conception de l'intelligence qui, au contraire, tire vers une sorte de recul d'un présent immédiat, d'un regard distancié sur ce que nous sommes en train de vivre, de ne pas être le nez dans le guidon en étant extrêmement performant dans quelque chose. Et ça aussi, on veut aussi l'appeler l'intelligence.
Donc, oui, mais est-ce que les neurosciences n'ont pas tendance à considérer que l'intelligence, c'est une propriété du cerveau, que ça reste dans le cerveau, ça se niche là, voire il y a une zone dans le cerveau
alors,
qui
je,
est la zone
dirais, de l'intelligence. Oui, je dirais différemment. Alors, je sais qu'il y a une soirée sur l'intelligence aussi au-delà des cerveaux humains. Alors, évidemment, l'intelligence animale existe. Il y a des débats sur l'intelligence végétale. Mais donc, du point de vue neuroscientifique ou neurologique, pour aller très vite et très clair, on dirait la chose suivante, pas de cerveau, pas d'intelligence. Mais une fois que vous dites ça, ça ne veut pas dire que l'intelligence est que dans le cerveau. Par exemple, on mentionnait l'intelligence sociale, les interactions sociales, l'intelligence collective. Et évidemment, ça se passe pas dans le cerveau d'un seul bonhomme. Donc, ce n'est pas parce que vous identifiez un facteur absolument indispensable que vous allez résumer l'intelligence à ça.
Daniel Andler.
Alors, je reviens un petit peu sur l'interdisciplinarité, parce que en fait, vous nous avez présenté, Caroline, Lionel et moi, comme étant complémentaires, mais nous avons quand même un champ commun qui est celui des sciences cognitives. Et moi, en tant que philosophe des sciences, mon terrain, c'est les sciences cognitives, comme d'autres sont des philosophes de la chimie ou des philosophes de la linguistique ou des philosophes de la démographie. Moi, je suis un philosophe des sciences cognitives, donc c'est un domaine que j'essaye de comprendre et dont une caractéristique absolument essentielle, c'est la tentative décrite très bien par Lionel à l'instant, de croiser les regards. Donc déjà, au sein des sciences cognitives, on a le point de vue de la linguistique, le point de vue de l'anthropologie, le point de vue de la biologie évolutionnaire, le point de vue de la psychologie normale et pathologique, de la neuropsychologie et des neurosciences. Et déjà, en quelque sorte, cet effort assez considérable que font les sciences cognitives depuis 50 ou 60 ans pour essayer de croiser de manière productive leur point de vue est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et ce sont les succès des sciences cognitives qui amènent des gens comme Lionel et comme moi à poursuivre en quelque sorte cet effort. La deuxième chose que je voulais dire très rapidement, c'est que une manière d'opérationnaliser, ça me permet de rebondir sur ce que vient de dire Lionel à propos du fait que l'intelligence n'est pas simplement la capacité, je ne sais pas, d'appuyer sur le bon bouton pour faire fonctionner un automate, par exemple, ou la capacité qu'a le rat d'appuyer sur la bonne grille pour obtenir la nourriture espérée. C'est beaucoup plus large. Et comment est-ce qu'on élargit en s'orientant vers la notion de problème. Et l'intelligence est assez largement définie, j'ai étudié ça de près, par les psychologues contemporains, comme la capacité de résoudre des problèmes. Alors, ces problèmes peuvent être effectivement extraordinairement variés. Par exemple, ça peut être le problème de savoir pourquoi la pomme est tombée de l'arbre. C'est un problème que Newton aurait soi-disant résolu. Donc, ça peut être des problèmes de compréhension du monde, des problèmes extrêmement théoriques. Ça peut être des problèmes de relation à autrui. Ça peut être le problème de résolution de crise, comme toutes sortes d'autres problèmes. Donc, cette notion de résolution de problèmes donne une certaine unité à ce qui est par ailleurs, évidemment, un champ extraordinairement varié et proliférant.
En même temps, vous dites dans votre livre que cette capacité de résoudre des problèmes comme définition de l'intelligence, c'est réducteur. Et vous, vous préférez la faculté d'agir de façon appropriée dans une situation particulière.
Ah, merci Caroline de m'avoir cité, je ne pensais pas arriver si vite à cette notion. Oui, effectivement, je m'inscris un peu en faux, c'est-à-dire pas en faux, je ne pense pas que ce soit erroné de parler de la capacité de résoudre des problèmes, mais je pense que l'intelligence humaine, ça va bien au-delà. Et je ne peux pas en dire autant nécessairement pour l'intelligence animale ou d'autres formes d'intelligence. Je peux dire que l'intelligence artificielle, c'est ma thèse, est une intelligence qui se limite à la résolution de problèmes, alors que l'intelligence humaine consiste à embrasser une situation concrète, personnelle, la situation dans laquelle chacun d'entre nous, par exemple, est actuellement, qui ne se résume pas simplement à un certain nombre de traits, qu'on est dans la cour de l'évêché ou du rectorat, qu'on doit faire ceci et cela. Non, c'est une situation beaucoup plus grande, beaucoup plus vaste, une situation vécue, dans laquelle, au sein de laquelle, nous décidons, et c'est notre choix, de prendre un certain nombre de traits particuliers. Et nous pourrions faire d'autres choix, éventuellement. Par exemple, il pourrait y avoir une situation d'urgence, soudain, dans cette cour, et alors que précédemment la situation consistait pour vous à nous écouter, pour nous à parler, tout à coup la situation change complètement de nature. Mais nous pourrions aussi continuer d'écouter et continuer de parler en ignorant complètement l'incident médical qui vient de se produire.
J'espère qu'il n'y en ait pas. Lionel Nakache, est-ce que cette définition, les deux d'ailleurs, hein, d'abord capacité de résoudre des problèmes et ensuite faculté d'agir de façon appropriée dans une situation particulière, parle aux neurosciences scientifiques et aux neurologues que vous êtes, ou est-ce que vous vous placez ailleurs, c'est-à-dire vous vous placez par rapport à la conscience, à la subjectivité, à l'esprit, à l'intuition et voilà.
Alors ça me parle tout à fait ce que vient de dire Daniel, et pour rester dans cette ouverture, voilà, essayer de faire exploser le problème, d'essayer de montrer plusieurs facettes, il y a une autre facette qu'on a évoquée déjà un peu et qui me semble fondamentale. Et si on revient là aussi aux stéréotypes sur l'intelligence, par exemple le stéréotype, un peu un des stéréotypes communs, c'est d'envisager d'une part l'intelligence comme une sorte d'écran face à la réalité du monde, de dire en fait une intellectualisation de la vie va vous mettre à distance du réel, et à l'inverse de concevoir l'intelligence comme une faculté absolument indispensable pour pouvoir vivre votre existence. Et dans cette tension-là, vous voyez, entre deux principes contradictoires, on retrouve quelque chose d'essentiel, c'est que à la fois, pour faire un peu la Héraclite, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. C'est-à-dire qu'en fait, chaque situation que vous allez vivre a une singularité propre. Elle ne ressemble pas à celle que vous avez déjà vécue. Et si vous voulez avoir la chance de la vivre avec la plus grande intelligence, alors il faudra pouvoir saisir, une sorte de kairos, de saisir la singularité de ce moment. Mais aussitôt qu'on a dit ça, on voit bien que pour être capable de faire ça, il faut que vous disposiez de connaissances. Et de connaissance du monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable, lorsque vous percevez le monde, de le ramener à du déjà connu, à des concepts, à des catégories. Et on voit bien cette tension, c'est que si vous restez à cette étape de catégorisation, de classement, de sémantisation qui est indispensable, vous risquez de passer à côté du moment. Et l'élan romantique de se dire « on n'a pas besoin de tout ça, pas de cerveau et on va vivre le monde avec émotion », on voit bien où ça va aussi. Donc on a cette nouvelle tension, et que d'une certaine manière ça devient une sorte, comme disait, j'aimais beaucoup cette expression de Daniel, d'anguille. C'est une anguille, l'intelligence. Parce que vous pourriez dire que l'intelligence, sous cet angle de cette tension-là, que je viens d'exprimer, eh bien, c'est quelque chose qui devient possible à partir du moment où vous êtes capable de faire usage de connaissances. Mais l'intelligence n'est donc pas l'intelligence au sens classique du terme. C'est quelque chose qui devient possible si vous êtes capable de vous donner les moyens de penser la singularité d'une situation. Donc l'intelligence échapperait même à sa définition aussi, si vous voulez. Donc ça me semblait important de le mentionner, parce que c'est pas spécifiquement un discours de neuroscientifique, mais c'est vraiment ça ce qu'on voit quand on examine un patient en consultation. On va faire tout ça. On va examiner les tests standards. Vous savez, c'est des tests pour... On va sonder les capacités de catégorisation, par exemple, de demander à quelqu'un en quoi est-ce qu'une table et une chaise, on peut dire que ça appartient à la même catégorie. Et le type d'erreur que vous pourrez avoir, c'est soit des patients qui vont être enfermés dans la différenciation, c'est-à-dire bah non, une table et une chaise, c'est pas la même chose. Ou bien qui vont être dans la concrétude, c'est-à-dire c'est en bois, ou ça a des pieds, ou ça a quatre pieds, ou c'est pour manger. Et donc d'arriver à trouver le bon curseur, de dire il y a une catégorie générale qu'on va appeler du mobilier, et qui permet à la fois d'englober tous les exemplaires de ces deux objets, et sans en prendre aucun autre, eh bien c'est ça aussi ce qu'on veut appeler l'intelligence. C'est cette capacité à penser le monde en concept, mais pour ensuite, quand vous allez rencontrer une chaise ou une table, de pouvoir la penser comme vous n'en avez pas pensé d'autres auparavant. Et c'est ça qui me semble une tension fondamentale aussi pour viser, pour pas passer à côté de ce que vise l'intelligence.
Est-ce que les choses ont changé de ce point de vue-là? Est-ce que là, non seulement c'est une anguille, c'est-à-dire que c'est un concept insaisissable et malléable, mais est-ce que dans les neurosciences, dans les sciences cognitives, la définition est elle-même mouvante, ou est-ce qu'elle est fixe depuis que les sciences cognitives existent?
Alors, qui veut répondre?
Alors,
Une bonne question. Daniel Andler, alors, d'abord.
Alors, ce que j'ai remarqué, moi, depuis le temps que j'étudie un peu les sciences cognitives, j'essaie de contribuer un peu à les organiser, à créer des cours, etc., c'est que le concept d'intelligence souffre d'une impopularité considérable dans les sciences cognitives. C'est très curieux. La psychologie de l'intelligence, qui a connu différents moments, il y a eu le moment du quotient intellectuel, dont on se moque beaucoup en France, on a tort, c'est une très bonne notion en fait, bien utilisée, donc il y a eu ce moment-là, et puis depuis une vingtaine d'années, il y a de nouveau une renaissance en quelque sorte de la psychologie de l'intelligence. Mais assez curieusement, ça fait pas partie du mainstream des sciences cognitives, et j'ai assisté à de nombreux débats avec des spécialistes de sciences cognitives extrêmement éminents, qui trouvaient qu'il était tout à fait ridicule de s'intéresser à la notion d'intelligence. Pour eux, la notion intéressante, c'est la cognition. La cognition, c'est la manière de déployer les facultés cognitives diverses et variées dont nous sommes ou non équipés pour faire face donc aux différents problèmes ou différentes situations du monde. Donc, pour les sciences cognitives, majoritairement, disons, l'intelligence n'est pas un bon concept. C'est quelque chose qu'il faut laisser du côté des ressources humaines dans les entreprises, éventuellement dans les classes, au service militaire, etc., ou dans le langage ordinaire, mais c'est pas vraiment un concept scientifique pour elle. Alors, je ne sais pas comment Lionel réagirait. Ouais,
je suis, alors, vraiment, c'est ça qui est sympathique aussi dans cet échange, c'est qu'on est, je pense, très complémentaires. C'est-à-dire que je verrais à la fois un facteur d'abord presque socio-historique. C'est qu'évidemment, dès qu'on dit le mot intelligence au XXe siècle, fin du XXe siècle et aussi au XXIe siècle, on a aussi toute la projection de dérives totalitaires, de dérives normatives, comme il y en a eu pour la génétique et l'eugénisme, etc. Donc je pense, moi, qu'il y a une partie de cette résistance qui provient d'une sorte, disons, appelons ça, de réflexe humaniste, de dire, attention, il y a ici un danger à instrumentaliser des concepts idéologiques à travers ça. Et la deuxième chose plus intéressante, parce qu'elle est moins dépendante de ces conditions socio-historiques, me semble avoir à faire avec, je pourrais dire, la naissance de mon métier, qui est la neurologie. C'est que la neurologie est la branche de la neurologie qu'on appelle la neuropsychologie, donc l'étude des conséquences des lésions cérébrales sur le fonctionnement mental, d'accord? Eh bien, le concept clé, si on doit en garder un, c'est celui de dissociation, voire de double dissociation. C'est-à-dire que ce que nous rencontrons dans le quotidien de la neurologie, donc depuis, disons, presque 3 siècles, c'est qu'un patient va pouvoir être affecté dans un aspect de sa vie mentale, et pas dans d'autres. Par exemple, pour donner un exemple très parlant, on parlait de la mémoire au singulier, je renvoie aux premières tensions, singulier ou pluriel, on parlait longtemps de la mémoire au singulier, la mémoire, etc. Et en réalité, la neurologie de la mémoire vous montre que certains patients peuvent perdre la capacité à forger des nouveaux souvenirs, on appelle des souvenirs de mémoire épisodique, mémoire de la vie vécue, consciente, etc., mais qui vont être capables de conserver des mémoires par conditionnement, par apprentissage, perceptif, procédural, etc., etc., etc. Et que vous avez certains patients qui perdent l'une et pas l'autre. Et donc, évidemment, sous cet angle-là, le concept d'intelligence comme une sorte d'intelligence cristalline unifiée générale, il a pâti du fait que la neurologie démontre que beaucoup d'aspects de notre vie mentale sont dissociables, sont un mécano, et donc de vouloir unifier tout ça sous un seul concept d'intelligence apparaît absurde. Et je dirais, je renvoie à la première tension, que c'est à la fois vrai, cette critique, mais c'est aussi limité. Et c'est là que je suis aussi d'accord avec Daniel, c'est que nous avons dans le fonctionnement mental des aspects de notre fonctionnement qui sont totalement spécialisés et donc dissociables et relativement indépendants les uns des autres. Et de là, ça justifie l'appellation de la multiplicité des systèmes d'intelligence. Mais en même temps, on a une partie de notre fonctionnement mental. Et si ça vous intéresse, je vous en dire, un des livres clés dans notre domaine a été écrit par un des pères de la psychologie cognitive qui est décédé maintenant, qui s'appelait Jerry Fodor, un petit livre, comme tous les, comme pas tous, mais comme beaucoup de grands livres. Il y a en plus le côté superfluité, quoi, de ne pas faire peser au lecteur des pavés de 2000 pages, mais c'est un texte très court, qui s'appelle Modularity of Mind, la modularité de l'esprit. Et donc, il opérationnalise de manière extrêmement rigoureuse, on va pas le faire là, tous les concepts de la modularité cognitive. Et la fin de son livre, la deuxième partie, c'est, on a dit tout ça, mais il y a des aspects de la vie mentale qui brisent la modularité. On a quelque chose qui, à un moment donné, éclate et n'est pas que modulaire et que dissociable. Et donc, on a ces deux aspects à la fois. Et la neurologie le montre.
Vous voulez dire, juste la main en l'air pour dire autre chose, mais je voulais laisser la parole à Daniel Handler.
Il m'a tiré le paillasson sous les pieds parce que j'allais parler de ce livre dont je vous signale qu'il a été traduit en français aux éditions de Minuit. Donc, ceux qui ne lisent pas facilement l'anglais ont accès à ce texte qui est vraiment lumineux. Je voulais juste compléter un petit peu. Donc, ce que dit Jerry Fodor dans ce livre, c'est qu'il dit que la psychologie cognitive ou les sciences cognitives actuelles, le livre est de 83, donc on reste quand même dans la modernité récente, ressuscite le projet d'une psychologie des facultés. Et donc, il voit effectivement, la notion de mécano est excellente, les sciences cognitives peuvent en tout cas couvrir, rendre compte, expliquer, éventuellement prédire les effets de ce mécano. Mais le mécano n'est qu'un mécano. Il y a ensuite le mécanicien. Il y a le gamin de 8 ans qui, à partir des différentes pièces, assemble quelque chose. Et une autre comparaison qui peut être utile, c'est celle de la cuisine. On sait qu'on ne fait pas de bonne cuisine sans de bons ingrédients, hein, ça c'est la première chose. Mais il suffit pas d'avoir de bons ingrédients. Moi qui suis un très mauvais cuisinier, c'est pas parce qu'on me donnera les meilleurs ingrédients du monde que je ferai un bon plat. Et donc l'intelligence, c'est l'art en quelque sorte, à partir de ces ingrédients qui sont les différentes facultés, c'est l'art de confectionner un bon plat, en l'occurrence un comportement approprié dans une situation donnée.
D'abord, moi j'aime pas beaucoup le terme intelligence artificielle. Et pourquoi pas? Parce que je ne crois pas que le produit du cerveau humain soit artificiel. Deuxièmement, je vous dirais que, en ce qui me concerne, je crois que ces machines-là sont en train de donner à l'être humain une dimension d'intelligence qu'il n'avait pas avant.
Est-ce que l'intelligence artificielle va nous donner une intelligence supérieure, le nous étant les humains? C'est la question que posait dans cette conférence de 1972 le biophysicien et professeur au MIT, Walter Rosenblit. Et c'est la question qu'on peut poser à nos deux invités du soir, Lionel Nakache et Daniel Handler. Vous faites dans votre livre « Intelligence artificielle, intelligence humaine, la double énigme » Daniel Handler, cette tentative de comparer l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. C'est vrai qu'on parle de neurones artificiels, on parle d'apprentissage dans l'intelligence artificielle, comme on parle de neurones biologiques, évidemment, dans l'intelligence humaine. Est-ce que cette tentative de comparer est satisfaisante, au bout du compte, vous qui avez vraiment travaillé sur cette double énigme?
Une comparaison est possible quand on accepte de ramener de manière réductrice, mais quand même très utile, ça ne veut pas dire qu'elle est fausse, hein. Une réduction, ça peut être extrêmement utile. Donc, ramener l'intelligence à la capacité de résoudre des problèmes est utile. À partir de ce moment-là, on peut dire, eh bien, l'intelligence humaine résout un certain nombre de problèmes, l'intelligence artificielle résout également des problèmes, et on peut dire, ben, au fond, on peut les mettre en quelque sorte en compétition. Est-ce que, pour tel ou tel problème, l'intelligence artificielle fait aussi bien ou moins bien ou mieux que l'intelligence humaine? Ensuite, il y a la question de savoir comment, d'où vient cette intelligence artificielle, et c'est tout le débat de savoir qu'est-ce qu'on a mis en quelque sorte dans la marmite pour qu'elle produise les effets voulus. Cette intelligence artificielle peut être d'origine humaine dans la mesure où on a mis dans l'ordinateur un certain nombre d'intuitions ou de connaissances humaines. Mais c'est une autre question, parce que ce qui nous intéresse là, c'est de savoir si la machine, l'ordinateur, ou des robots peuvent produire en quelque sorte des résolutions de problèmes qui sont égales ou supérieures. Donc, dans cette mesure-là, on peut comparer.
mais dans une autre, vue d'un autre point de vue, il faut adopter la maxime de Lionel, il faut admettre la pluralité des points de vue ici, d'un autre point de vue, les deux types d'intelligence sont totalement incomparables, et là, peut-être, puisque le temps passe, la différence fondamentale, c'est que l'intelligence artificielle ne sait pas ce qu'est une situation. Une intelligence artificielle n'est jamais en situation. Il n'y a pas de personne, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de corps de l'intelligence artificielle qui lui permet, en quelque sorte, de faire face à une situation. Les situations sont, bien sûr, en un sens, elles existent pour l'intelligence artificielle, mais elles sont artificielles elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles sont imposées par son utilisateur. C'est l'utilisateur qui met l'algorithme en situation de devoir, je ne sais pas, résoudre un problème de météorologie ou bien de résolution d'une crise sociale. Il lui donne les paramètres, il lui dit « résous-moi ce problème ». Et à ce moment-là, l'algorithme se trouve en situation de devoir résoudre ce problème. Mais le problème, la situation, elle vient de l'utilisateur humain.
Est-ce que de ce point de vue-là, le terme même d'intelligence pour intelligence artificielle n'est pas inadapté, Daniel Handler ?
Alors c'est une longue affaire. Quand en 1956, donc il y a eu une réunion très connue dans un collège américain, Dartmouth, et ils étaient les fondateurs de ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle, se sont retrouvés, et puis l'un d'eux a dit « on va appeler notre domaine intelligence artificielle ». Et ses collègues n'étaient pas du tout d'accord. Ils disaient « c'est pas une bonne idée parce que ça va donner en quelque sorte au public une image démesurée de notre projet qui va créer toutes sortes de fantasmes et c'est une très mauvaise idée ». Mais finalement, c'est le partisan du terme « intelligence artificielle » qui a gagné. Et maintenant, on est bloqué avec ce terme, on peut pas revenir dessus. Il faut le manier avec des pincettes, d'une certaine façon. Il n'est trop facile de dire non, non. On continue d'entendre des arguments du genre une machine, c'est par définition bête, ça connaît rien, ça fait ce qu'on lui dit, etc. Donc il n'y a pas d'intelligence du tout. Non, ça c'est une critique complètement superficielle qu'il est très facile de rejeter. Non, non, l'intelligence artificielle présente un certain nombre de caractéristiques qui coïncide avec celle de l'intelligence humaine, mais sans l'atteindre, sans l'égaler d'aucune manière.
Dans ces caractéristiques, Lionel Nakache, il y a notamment l'idée qu'une partie, en tout cas, de l'intelligence artificielle cherche à copier le cerveau humain, à imiter le cerveau humain pour ensuite créer un modèle qui agit de façon intelligente, mais proche du cerveau humain. Est-ce que les recherches qui sont menées aujourd'hui en intelligence artificielle ou sur l'intelligence artificielle vous permettent d'avancer dans votre propre domaine des neurosciences ? Est-ce que là aussi, il y a concurrence ou complémentarité ? D'abord, du point de vue de la recherche. Ensuite, je vous demanderai ce que vous pensez de l'intelligence artificielle elle-même.
Alors, du point de vue de la recherche, c'est un domaine, c'est une période fascinante. C'est une période que je trouve, moi, fascinante parce qu'effectivement, je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Daniel et je développerai d'autres aspects qui me semblent aussi importants. Le premier, quand même, c'est qu'il y a un mot qu'il faut prononcer, c'est celui d'humilité. C'est-à-dire, sans être spécialement très âgé, moi j'ai connu une période de ma vie où personne n'envisageait que les outils dont on dispose aujourd'hui, on les aurait à notre disposition. Donc il y a ça qui a surpris tout le monde. Vous allez avoir Yann LeCun et Joshua Bengio demain qui font partie des trois pères un peu officiels du deep learning, des réseaux convolutifs profonds et tout. Ils pourront vous raconter cette histoire de l'hiver, de l'IA, etc., du perceptron. Bon, donc il y a un côté, c'est qu'aujourd'hui, quelle que soit l'assurance qu'on veuille avoir, il faut être humble parce qu'on ne sait pas, en fait, comment va ce domaine, à quelle vitesse. Maintenant, alors je reviendrai sur les aspects généraux, mais sur l'aspect recherche, pourquoi c'est fascinant ? Parce que ce que font plusieurs équipes, alors moi je ne suis pas expert en IA, mais ça m'intéresse beaucoup puisque je travaille sur l'intelligence humaine, et j'étais assez d'accord avec cette notion de naturalisation de l'IA, de dire l'IA, elle tombe pas du ciel, elle sort de cerveau humain, donc c'est intéressant ça aussi, cet aspect-là, ce que dans l'extrait. Alors, j'ai beaucoup de collègues, de plus en plus de collègues, qui vont faire la chose suivante. J'essaie de le faire de manière très courte. On connaît l'architecture anatomique et fonctionnelle de grands réseaux cérébraux dans le cerveau humain. Je prends un exemple. Dans le cerveau visuel, donc l'œil, la lumière qui arrive sur vos rétines, elle va être traitée au niveau du cortex occipital, et puis elle va être traitée dans une vingtaine de régions qui sont organisées en deux grandes voies. Tout ça, on le connaît depuis les années 1980. C'est pas non plus une vieille science. Donc, on commence à voir l'architecture fonctionnelle de ça. Et donc, ce que font des collègues d'IA ou qui travaillent avec l'IA ou qui ont un pied dans chaque domaine, ils utilisent des réseaux convolutifs profonds. Rendez-vous demain soir, Yann Lequin, Joshua Benjo. Et puis, ils essayent de donner l'architecture la plus proche à ces réseaux artificiels de celle que l'on connaît chez les cerveaux humains. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez scanner avec des IRM, par exemple, ou de l'EEG, ou des enregistrements intracérébraux, où vous allez enregistrer l'activité cérébrale de cerveau humain pendant qu'ils perçoivent une image, et vous allez mesurer ce qui se passe à chacun des niveaux de ces réseaux cérébraux qui sont enchâssés comme ça. Et puis, ce que vous faites en parallèle, c'est que vous allez extraire, et c'est ce que disait Daniel, que font ces réseaux, vous allez extraire dans le réseau simulé les niveaux de représentation de ce réseau artificiel à chacune des étapes qui est censée reproduire ou être, disons, neuro-inspiré par l'architecture et le fonctionnement du cerveau. Et un des grands résultats qui sort, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de similarités. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive à expliquer, on se rend compte, et ça, c'était pas au début dans la boîte. Dans la boîte, on dit, voilà l'architecture du réseau IA, et on voit comment, par apprentissage supervisé ou pas, cet objet se débrouille pour apprendre. Et on se rend compte qu'il arrive à reproduire beaucoup des propriétés de ce qu'on voit dans un cerveau humain. Et pour être très court là-dessus, parce que c'est un domaine qui m'intéresse, moi je travaille surtout sur la conscience, eh bien, un de mes amis et collègues, Stanislas Dehaene, que vous connaissez sans doute, a écrit un livre sur ça, sur l'apprentissage naturel et IA, et je suis assez d'accord avec lui sur cet aspect-là. C'est qu'en fait, ce qu'on sait aujourd'hui bien expliquer, avec l'argument d'humilité que j'ai rappelé tout à l'heure, c'est que quand vous voyez une image, en fait, par exemple, quand vous me voyez ou quand je vous vois, il y a, on va dire, 0,2 seconde qui passent dans ces réseaux parallèles dont je vous ai parlé. Et c'est un traitement très complexe, mais pas conscient. Je ne peux pas dire, j'ai vu votre visage, j'ai vu un chapeau, et vous non plus. Et puis, il se passe quelque chose vers 0,2-0,3 seconde où on prend conscience subjectivement. Alors, ce qu'on sait faire aujourd'hui avec les réseaux convolutifs, ça capture assez bien, ça commence à se rapprocher assez bien de ces 200 premières millisecondes de temps inconscient. Mais que pour l'instant, je ne crois pas qu'on ait encore de modèles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Donc on en est là, plutôt dans une sorte de capture extrêmement des prouesses en fait de computationnelles qui se rapprochent assez bien des premiers temps de traitement, les 0,2 secondes de quand vous voyez une image pour dire c'est un chapeau, c'est un porte-manteau, c'est un visage.
Voilà. Daniel Antler.
J'aime beaucoup le thème de l'humilité. Je veux juste le décliner de deux manières. L'humilité qui consiste à dire on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il sera jamais possible d'atteindre je ne sais quelle performance en matière d'intelligence artificielle. Et je reconnais, par exemple, Lionel a parlé des hivers de l'intelligence artificielle. Ça, l'IA a démarré dans les années 50 et 60, a eu un essor extraordinaire. On pensait que ça y était. Minsky avait dit que le problème de l'intelligence humaine totale, générale, etc., serait résolu dans les 5 ans qui viennent, etc. Et ensuite, boum, il y a eu un long hiver parce que les idées n'étaient pas bonnes, elles n'étaient pas mûres, etc. Et à l'époque, il était raisonnable de dire que l'intelligence artificielle se heurtait à des impasses, à la fois empiriques, on constatait que ça marchait pas, et conceptuelles, parce qu'ils étaient allés trop vite dans l'analyse conceptuelle de ce qu'est l'intelligence ou la cognition. Mais il faut bien reconnaître que 50 ans plus tard, le vent a complètement tourné. Et donc, on pouvait être très pessimiste à juste titre dans les années 70 et 80, et aujourd'hui, il faut reconnaître que des progrès extraordinaires ont été accomplis, et par conséquent, on peut très bien imaginer que dans 10, 20, 30, 50 ans, d'autres progrès tout à fait inattendus seront faits également. Donc il faut être humble sur notre capacité à prévoir l'évolution d'une science. L'autre niveau d'humilité, c'est qu'il faut être humble de manière plus fondamentale, c'est-à-dire savoir que sur tout phénomène complexe, nous aurons toujours une perspective limitée. Nous ne savons pas de quelle manière elle est limitée, mais le rêve d'une compréhension totale, d'une neuroscience idéalement achevée, comme on dit, ou d'une astrophysique idéalement achevée, quand on saura tout ce qu'il y a à savoir sur la constitution du cosmos ou la constitution du savoir humain, eh bien, cette idée est complètement utopique. En fait, la science est une entreprise constamment ouverte, c'est-à-dire qu'à mesure qu'on comprend, eh bien, on comprend aussi qu'on ne comprend pas tout.
Lionel Nakache.
Oui, on peut être vraiment... on est peut-être trop d'accord. Mais Un des aspects aussi qui me semblait important, c'est de revenir sur... Donc, une fois de plus, moi, je suis totalement fasciné par ces outils, mais en essayant de les prendre pour ce qu'ils sont. Voilà. Parce qu'effectivement, si on se trompe sur leur interprétation, si on leur projette des propriétés qu'ils n'ont pas, en tout cas aujourd'hui, eh bien, le fait de croire à ces propriétés qui ne sont pas là, mais de les promener dans vos croyances, elles finissent par avoir des conséquences en acte. Il y avait, dans la séquence d'ouverture, l'extrait de HAL 2001, l'Odyssée de l'espace. Aujourd'hui, le plus complexe des réseaux artificiels n'est pas capable de ressentir un sentiment de jalousie, de violence, de un peu comme dans l'extrait, dire une sorte d'anthropomorphisation, de projection d'une vie subjective extrêmement riche. Je veux dire, quand Deep Blue gagne ou perd contre Kasparov, à la limite, quand Kasparov perd, il se passe un tas de choses en lui subjectives qui sont pas encore qu'on ne sait pas encore modéliser et qui sont presque intéressantes de ce point de vue-là. Alors je terminerai avec un point, c'est que cette anguille, moi je crois que c'est un concept important parce que vous avez compris ce qu'on veut dire, c'est que l'anguille ça veut pas dire il y a rien à voir circuler, ça veut dire il faut faire toutes ces recherches, elles sont fascinantes, mais il faut aussi avoir conscience de toutes les facettes du problème. Et la dernière facette que je voulais évoquer, c'est que vous savez dans ces sagesses populaires, intelligence collective, vous avez souvent ces renversements où par exemple vous avez l'idiot du village ou le dîner de cons, qui s'avère, en fin de compte, être le plus intelligent de la bande. Eh bien, pour moi, ce que ça veut dire, au-delà du côté un peu voilà sympa, etc., ce que ça veut dire, c'est qu'à nouveau, il faut avoir conscience que l'intelligence ne se résume pas à certaines des propriétés qui la définissent. Et qu'on a besoin, si on veut vraiment parler de l'intelligence, d'englober toutes ces propriétés. Et parce que là, c'est un cas d'école, presque une dissociation neuropsychologique. Le bonhomme qui est déficient dans certains aspects, qui se prouve plus, qui s'avère plus intelligent que d'autres, c'est une façon, de manière plus générale, de dire que si vous ne prenez en compte que certains aspects performatifs, représentationnels, etc., vous prenez en compte des aspects importants, mais vous passez à côté de la totalité du problème. Et comme disait Daniel, sa totalité nous échappe. Donc l'intelligence est une anguille, un peu slogan livre rouge.
Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut remonter encore en arrière. On est remonté en 1972 tout à l'heure, mais on peut remonter à 1935. En 1935, c'est un poète qui réfléchissait au bilan de l'intelligence. C'était le poète Paul Valéry. Il prononçait une conférence qui s'intitulait « Le bilan de l'intelligence » dans laquelle il méditait, et il s'inquiétait d'ailleurs, sur l'esprit humain, sur ses créations, qu'il était jugé déjà menaçantes, sur les accélérations du monde, et il se demandait, je le cite, « si l'esprit humain pourra surmonter ce que l'esprit humain a fait, si l'intellect humain pouvait sauver d'abord le monde et ensuite soi-même ». Daniel Handler, il avait déjà raison.
Une belle citation. Il avait tout à fait raison, et je pensais justement au fait que notre vigilance, qui est un peu celle des philosophes, mais pas seulement, c'est pas une spécialité, mais le philosophe là joue un rôle, essaye de jouer un rôle, disons, moteur, c'est de nous mettre en garde contre les illusions que peut notamment faire naître l'intelligence artificielle. Parce que si ces illusions deviennent très répandues, alors elles vont contaminer notre concept d'intelligence humaine et plus largement de caractère humain. Donc ils vont modifier notre anthropologie fondamentale. Imaginez que notre anthropologie fondamentale se réduise à, je sais pas, des algorithmes de recommandation pour avoir la meilleure pizza de Montpellier. Ce serait quand même très triste. Mais évidemment, c'est une caricature. Mais le fait que nous prêtions à l'intelligence artificielle plus que ce qu'elle peut vraiment nous apporter sur le plan humain, sur le plan anthropologique, pourrait nous mettre en danger.
Voilà, on a essayé de tourner autour de cette anguille qui nous a bien échappé, mais on a quand même essayé de l'attraper à un ou deux moments pour ouvrir les débats de cette semaine. Un grand merci à tous les deux, Lionel Nakache et Daniel Handler. Demain, on parlera d'intelligence artificielle à proprement parler. Vous l'avez très très bien annoncé, Lionel Nakache. Il y aura sans doute un débat pour commencer entre Joshua Bengio et Yann Lequin. Merci aux équipes du Festival et à celles de Radio France, Sandrine Bréchaud, Thomas Robin, Jean-Benoît Tétu, Alex James, Mathieu Leroy. Les rencontres de Pétrarque ont été préparées par Roxane Poulain et réalisées par Nathalie Salle. On se retrouve demain, mais pour l'heure à 18h59. C'est bientôt Arnaud Laporte et Affaires culturelles. Merci également au public qui nous a suivis avec beaucoup d'attention.